ces gens qui font la différence avec Sophie Stanquet.
Mesdames, messieurs, bienvenue à ces gens qui font la différence. Aujourd'hui, je reçois Lorraine Doucet, spécialiste en intégration scolaire et sociale. Elle travaille en collaboration avec divers organismes, dont le regroupement pour la trisomie 21 et la KISS. À 30 ans, après deux années de travail dans le milieu de la déficience intellectuelle, Lorraine Doucet décide d'adopter un enfant atteint de trisomie 21. Son combat, elle le fait avec lui, avec son fils, pour qu'il aille sa scolarité dans le secteur régulier, naît une nouvelle vocation professionnelle. À ce moment-là, Lorraine Doucet est devenue la spécialiste de l'intégration scolaire des enfants ayant un handicap intellectuel. Elle accompagne des familles au Québec et même jusqu'en Allemagne et au Cambodge pour cette cause. Elle donne aussi des conférences et des formations, puis devient chargée de cours à l'université. Et en 2003, elle reçoit le prix Droits et libertés de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. Et en 2004, elle est personnalité de la semaine de la presse dans la catégorie humanitaire. Nous la recevons. Lorraine Doucet, bienvenue dans nos studios. Merci d'être là.
Oui, ça me fait plaisir, Madame Stanquet.
Alors, merci aussi de la cause, parce qu'on va en parler, trisomie 21. Tout ce que vous faites pour l'intégration, c'est absolument fantastique. Mais on va essayer de savoir un peu plus sur votre vie avant. Qui vous étiez avant de vous occuper de toutes ces causes-là? Vous êtes née à Saint-Célestin, en Mauricie, et vous avez passé votre enfance à Bécancour.
Je vais juste corriger.
Non, c'est le contraire.
Je suis née à Bécancour.
Alors,
et j'ai passé mon enfance à Bécancour.
Bah, oui.
Oui, je suis native du village de Bécancour. Mm-hmm. Donc, c'est ça. Moi, j'ai grandi sur une ferme. Je vous annonce tout de suite que j'étais la 11e enfant de 12 enfants. Mm-hmm. Donc, on vivait déjà dans une espèce de communauté où on devait s'entraider, partager tout et le vivre ensemble, fallait l'avoir développé très tôt. Et où je fus très inspirée, c'est ma voisine qui était ma meilleure amie, Élise, était née avec un handicap auditif. Elle était muette et elle avait un trouble visuel qu'on appelait à ce moment-là semi-voyance, mm-hmm. mais qui, par les années suivantes, j'ai pu découvrir que c'était un bébé qui était né avec des cataractes, mais à l'époque, on ne les opérait pas. Donc, elle n'avait pas accès à la vue de façon régulière, sauf des ombres. Et ce que j'ai toujours trouvé triste, c'est qu'elle ne pouvait pas être scolarisée avec moi à l'école du village.
Donc, elle était votre meilleure amie? Elle était...
Oui.
Donc, toutes les deux, vous aviez 12 ans. Déjà, à cet âge-là, vous aviez un regard différent sur...
Différent, oui.
Sur
oui.
la différence?
Tout à fait. Depuis toute petite, j'avais un regard différent parce que c'est la personne avec qui je jouais à l'extérieur, que je côtoyais de façon quotidienne. Et ce que je trouvais difficile, comme je vous disais, c'est qu'elle ne pouvait pas être scolarisée avec nous à cause de ces défis particuliers, de ces incapacités. Donc, quand je revenais de l'école, puis je me rappelle encore avoir 6 ans, revenir de l'école et lui enseigner ce que j'avais appris dans la journée.
Mmh.
De là...
Je trouve ça très touchant.
Elle a développé toute la capacité d'apprendre à comprendre les mots, à lire les mots, à reconnaître l'alphabet et tout ça. Puis, demandez-moi pas quelle était ma méthode spéciale pour lui enseigner. Simplement le fait, c'était mon amie et je voulais l'aider. Donc, j'ai développé des méthodes avec elle, puis formidable, à l'âge de 12 ans. Elle devait quitter Bécancour pour venir être scolarisée à Montréal à l'Institut Nazareth-Louis-Braille. Mm-hmm. Et elle revenait le vendredi soir et elle voyageait seule. Puis je me disais, mais mon Dieu, qu'elle a de grandes capacités avec tout ce qui pouvait être des obstacles.
Oui, parce qu'elle a plusieurs handicaps. Là. Oui. Elle n'a pas seulement un handicap.
C'est
hein.
ça.
Déjà, un handicap, c'est quelque chose, mais là, elle en a plusieurs. Là.
Tout à fait. Ouais. Puis elle a été scolarisée et quand elle a passé son entrevue à l'école, les gens ne comprenaient pas parce qu'elle connaissait l'alphabet, elle savait déjà lire, elle savait déjà écrire des mots et ils ne savaient pas d'où elle avait appris tout ça. Mais j'avais la fierté de dire, c'est mon amie, puis je dois partager ce que j'ai comme connaissance. Puis le mettre à son niveau pour qu'elle aussi, elle puisse être compétente.
Alors vous commencez à 6 ans. Vous avez dit, j'ai commencé à 6 ans, mais c'est fou, là, ce que vous faites pour elle, parce que vous êtes en apprentissage et vous dites, mais c'est pas possible qu'elle ne puisse pas avoir accès. Vous souvenez-vous des méthodes? Qu'est-ce que vous avez fait, justement, à cet âge-là? Comment vous le faisiez, ça?
Moi, ce qu'elle m'expliquait, on avait déjà une espèce de vocabulaire gestuel. Mm-hmm. Puis ce qu'elle m'expliquait, c'est de lui écrire dans la main, former les lettres. Aïe. Pour, par la suite, avec elle, je faisais sur la terre battue tout un diagramme de lettres où elle pouvait les toucher, savoir comment elles étaient formées. Et par la suite, on écrivait des mots avec un bâton, un bout de branche. C'est vraiment, ça a été vraiment une découverte totale et complète. Mais pour moi, ce souci-là, que tout le monde faisait partie de la communauté, puis qu'on ne pouvait pas exclure, était là. À l'école, mmh. il est arrivé une autre amie, France, qui avait des limitations physiques et pour laquelle on disait qu'elle ne pouvait pas être scolarisée avec nous à l'école du village parce qu'il y avait des marches à monter puis qu'il fallait qu'elle monte toutes les marches pour se rendre à la classe de quatrième année. Je suis allée voir la directrice puis j'ai dit, mais pourquoi on ne déménage pas la classe en bas? Ce qui fait que France pourrait être scolarisée avec nous autres.
Et alors?
Et on l'a fait une année.
Bravo!
Oui.
Bravo.
Déjà, j'avais comme ce sentiment-là.
Là, on a parlé bon, à 6 ans, puis ensuite 12 ans. Puis là, vous faites bouger les choses déjà. L'injustice, ça, vous dites, c'est pas possible. C'est ma meilleure amie, mais là, ça s'étend, là.
Oui, oui, oui.
Ça s'étend.
Oui. Ça s'étend tous. Personne n'a le droit d'être exclu, puis je vais tout faire pour que tout le monde soit inclus dans notre société parce qu'on a besoin de tous.
Mais quand elle part, votre meilleure amie, à l'Institut Louis-Braille, comment ça... Est-ce qu'elle elle revit? Est-ce qu'elle aime ça? Est-ce qu'elle vous raconte ces premiers moments où elle est à l'apprentissage? Comment ça se passe?
Oui, elle me raconte qu'elle est heureuse, mais triste, parce qu'elle a dû quitter sa famille et ses amis, d'être déracinée pour aller dans un autre milieu, se faire scolariser, vivre dans une famille d'accueil.
Arrachée, quoi.
Oui, oui, oui. Et pour moi, c'était presque inacceptable qu'on impose ça à quelqu'un au lieu de développer l'expertise pour qu'elle puisse demeurer dans sa communauté. Puis ça a toujours été, qu'est-ce que je peux faire ici, maintenant, avec elle, puis comment je peux grandir avec ça, tout en ayant cette espèce de tristesse-là d'éloignement. Moi, c'est sûr que je suis entrée à l'école secondaire, il y avait d'autres défis, donc quand on se retrouvait, elle me racontait, et surtout, ce que j'aimais, c'est qu'elle me racontait ses rêves. Ses rêves, c'était de se marier, d'avoir des enfants, d'avoir sa maison, de pouvoir travailler. Puis là, je la regardais, puis je disais, bien, j'ai les mêmes rêves.
Ben oui.
On se ressemble tellement.
Oui.
Donc, comment on pourrait bâtir ça? Puis, par la suite, elle a suivi son chemin au niveau de l'adolescence et de l'âge adulte. Puis, je la revois de temps à autre présentement. Et à chaque fois qu'on se revoit, on tombe dans les bras l'une de l'autre.
Oui.
Et c'est comme si on était hier, lorsqu'on jouait sur la rue de terre battue, à partager une vie à deux.
Sans vous faire pleurer, est-ce qu'elle se souvient des moments où vous avez tracé les lettres sur le sable pour elle?
Elle se souvient de tout. De tout, tout, tout. Et je vous dirais, à un point tel, quand on se retrouve, on repasse toujours par le même créneau de nos référents commun. Mm-hmm. Donc, on se parle de ce qu'on faisait, comment on était quand, lorsqu'on était petite et tout ça. Puis où la vie nous a menés, mm-hmm. on est capable de faire un échange. Écoutez, aujourd'hui, elle est mariée. Elle n'a pas d'enfant, c'est un choix qu'elle a fait, mais elle a sa maison, elle travaille, son mari travaille aussi, et c'est une femme épanouie, heureuse.
Alors, ça a été votre source d'inspiration, c'est ce qui a vraiment conduit votre vie future. Vous décidez de faire des études, et là, vous avez trouvé votre voie. C'était en psychoéducation, orthopédagogie, et ça se passe à l'Université du Québec. On fait un saut, là. On passe... Donc, à partir du moment où vous avez aidé votre ami et les autres, il y a une voie qui est complètement tracée pour vous.
C'est ça. Qui, je croyais, être tracée. Mais drôlement, la dimension d'injustice revenait toujours à la surface. Donc, quand j'étais au cégep, pour moi, ma vision future, c'était de devenir avocate pour être capable de protéger ces individus-là contre les injustices. Et à ce moment-là, est né dans ma famille mon neveu qui a eu des grandes difficultés pour lesquelles on ne pouvait pas prévoir son avenir. Et oui, il y a eu des questionnements à savoir est-ce qu'il pourra marcher un jour, est-ce qu'il pourra parler un jour, et etc. Et là, je me suis dit oui. Il va parler. Oui, il va marcher. Je vais tout faire pour l'aider. Donc, j'ai bifurqué vers un bac en psychoéducation, vers un bac en enseignement d'adaptation scolaire, pour être capable de l'aider avec les connaissances actuelles, parce que pour moi, c'était, il aussi vit une certaine injustice de la vie. Mm-hmm. Je serai là pour pouvoir trouver les moyens pour qu'il puisse s'épanouir dans notre société. Donc, j'ai accompagné mon frère et ma belle-sœur dans les limites que je pouvais, dans les connaissances que j'avais, pour qu'il puisse lui aussi faire partie de notre monde.
Alors, toujours l'injustice, mais il y a toujours quelqu'un
oui.
qui est là et qui fait en sorte que ça bifurque, mais dans le bon sens.
Oui, 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 qui dirige comme, mm-hmm. D'accord, si j'ai à aller faire quelque chose là, j'y vais. Puis j'ai toujours eu l'ouverture de, et la curiosité d'aller partout. Donc, c'est là que je me dirige et j'ai fait mes études. J'ai fait 2 baccalauréats en 4 ans. Donc, j'ai étudié à plein pour être sûr sur ça, de pouvoir aider le plus grand nombre possible de personnes qui auraient des défis particuliers.
D'avoir des bases pour vous battre contre cette injustice.
Tout à fait.
Alors, on écoute une première chanson. Vous savez que vous choisissez vos chansons, mais vous devez nous dire pourquoi. Linda Lemay, ce que l'on met au monde.
Écoutez, c'est drôle, cette chanson-là, c'est un ami visiteur français qui m'a fait parvenir le CD de Linda Lemay. Puis il me disait, Lorraine, écoute les paroles, il me semble que ça te ressemble dans le sens de... Tu as été vers la recherche d'un enfant qui avait une différence et pour lequel on va de l'avant. Donc, les paroles me ramènent cela.
On en parle, on parle de votre histoire après, mais on écoute ça.
D'accord.
Ce que l'on met au monde ne nous appartiennent pas. C'est ce que l'on nous montre et c'est ce que l'on croit. Ils ont une vie à vivre. On ne peut pas dessiner les chemins qu'ils vont suivre, ils devront décider. C'est une belle histoire que cette indépendance. Une fois passés les boires et la petite enfance, qu'il ne faille rien nouer, qu'on ne puisse pas défaire. Que des nœuds passèrent et des boucles, si l'on préfère. Ce que l'on aide à naître ne nous appartiennent pas. Ils sont ce qu'ils veulent être, qu'on en soit fier ou pas. C'est ce que l'on nous dit, c'est ce qui est écrit. La bonne philosophie, la grande psychologie. Et voilà que tu nais et que t'es pas normal. T'es dodu, t'es parfait, le problème est mental. Et voilà que c'est pas vrai que tu vas faire ton chemin, car t'arrêteras jamais de n'être qu'un gamin. Tu fais tes premiers pas, on se laisse émouvoir, mais les pas que tu feras ne te mèneront nulle part. Qui es-tu si t'es pas un adulte en devenir? Si c'est ma jupe à moi, pour toujours qui t'attire? C'est parce qu'on m'avait dit j'étais pas préparée. T'es à moi pour la vie, le bon Dieu s'est trompé. Il y a le diable qui rit dans sa barbe de feu, et puis qui me punit de l'avoir prié un peu. Que tu m'appartiennes à la vie, à la mort. Il t'a changé en teigne, il t'a jeté un sort. T'es mon enfant d'amour, t'es mon enfant spécial. Un enfant pour toujours, cadeau des étoiles. Un enfant à jamais, un enfant anormal. C'est ce que j'espérais alors. Pourquoi j'ai mal? J'aurais pas réussi à me détacher de toi. Le destin est gentil, tu ne t'en iras pas. T'auras pas 18 ans de la même façon que ceux que le temps rend plus homme que garçon. T'auras besoin de moi, mon éternel enfant, qui ne t'en ira pas vivre en appartement. Ta jeunesse me suivra jusque dans ma vieillesse. Le docteur a dit ça, c'était comme une promesse. Qui avait tellement peur de te voir m'échapper. Voilà que ton petit cœur me jure fidélité. Toute ma vie durant, je conserverai mes droits, mes tâches de maman, et tu m'appartiendras. Ceux que l'on met au monde ne nous appartiennent pas. C'est ce que l'on nous montre, et c'est ce que l'on croit. C'est une belle histoire que cette histoire-là. Mais voilà que surprise, mon enfant m'appartient. Tu te fous de ce que disent les auteurs des bouquins. T'arrives et tu m'adores et tu me fais confiance. De tout ton petit corps, de toute ta différence, je serai pas là de passage comme les autres parents qui font dans un mariage le deuil de leur enfant. J'aurai le privilège de te border chaque soir, et certains jours de neige de te mettre ton foulard. À l'âge où d'autres n'ont que cette visite rare qui vient et qui repart par soir de réveillon, tu seras le bâton de ma vieillesse précoce, en même temps que le boulet qui drainera mes forces. Tu ne connais que moi et ton ami Pierrot, que je te décris tout bas quand tu vas faire dodo. Et tu prends pour acquis que je serai toujours là pour t'apprendre cette vie que tu n'apprendras pas. Car ta vie s'est figée, mais la mienne passera. Je me surprends à souhaiter que tu te répasses avant moi. On peut pas t'admirer autant que je t'admire, moi qui ai la fierté de te voir m'appartenir. Je voudrais pas qu'on t'insulte et qu'on s'adresse à toi comme à un pauvre adulte, parce qu'on te connaîtrait pas. Si le diable s'arrange pour que tu me survives, que Dieu me change en ange, que je puisse te suivre. Ce que l'on met au monde ne nous appartiennent pas, à moins de mettre au monde un enfant. C'est une belle histoire que celle qui est la nôtre. Pourtant, je donnerais ma vie pour que tu sois comme les autres.
Lorraine Doucet en direct dans nos studios, spécialiste en intégration scolaire et sociale. Elle s'occupe de plusieurs organismes, dont le regroupement pour la trisomie 21 et la KISS. Je voyais des larmes chez vous pendant que c'est carrément une chanson qui serait écrite pour vous, là.
Tout à fait. Puis je trouve que c'est une chanson qui dit les vraies choses d'une façon telle qu'elles sont libératrices pour tout parent qui se retrouve dans une situation où on est avec un enfant défi particulier.
Alors, un défi particulier, on va aller dans votre... C'est rare que je fais ça avec les invités, d'aller dans votre vie privée, mais vous, c'est interrelié. Vous allez travailler, donc vous trouvez votre voie. Il y a des anges qui sont amenés sur votre chemin de vie, qui vous fait en sorte que vous sortez un petit peu et vous avez votre bâton de pèlerine hein, contre l'injustice. Vous allez étudier pour vous donner un bagage et vous commencez à travailler dans les années 80 dans un centre de réadaptation de Montréal. Avec un service de réadaptation intégrale où vous occupez des jeunes avec une déficience intellectuelle. Et ça, vous le faites pendant 10 ans. Là où je parle de vie privée, c'est que vous décidez, et je pense que vous êtes la seule à avoir fait ça au Québec, mère célibataire, d'adopter un enfant qui a la trisomie 21.
Tout à fait. En stimulation précoce, je recevais des enfants qui avaient une trisomie ou tout autre retard de développement. Donc, j'évoluais auprès d'eux et j'ai appris à les aimer d'une façon sincère et dire à chaque fois, c'est pas moi qui va te mettre des limites, mais plutôt t'aider à dépasser les tiens. Mmh. Et c'est là que s'est présentée, après plusieurs années de travail, la naissance d'une famille qui me contactait parce qu'il y avait possibilité d'une naissance d'un enfant qui avait une trisomie. Et à ce moment-là, on me contactait comme professionnelle qui était dans le domaine et qui pouvait peut-être être marraine des parents pour pouvoir les accompagner dans ce nouveau défi-là. Et à ce moment-là, il y a eu, pour X, Y raisons, les parents ont décidé de laisser aller leur enfant pour le moment et de prendre du temps, du recul pour eux, ce qui est tout à fait louable dans leur situation. Donc, je me suis pointée pour être famille d'accueil et quand leur décision a été prise d'abandonner leur enfant, ce que je les remercie sincèrement parce qu'ils me donnaient à moi la chance d'avoir un enfant auprès de moi, j'ai décidé de démarrer les démarches d'adoption pour accueillir, pour que mon petit homme puisse porter mon nom. Dites démarches qui, on se rappelle, on revient en 1987 où il n'avait, selon mon avocate de l'époque, il n'avait jamais été possible qu'une femme célibataire puisse adopter un bébé du Québec au Québec. C'était possible à l'international, mais au Québec, on avait encore toute la Cour de justice qui était « ça me prend un papa et une maman pour adopter un enfant ». Et mon avocate de l'époque disait « écoutez, ce ne sera pas une bataille facile, mais je pense que si vous croyez en votre projet, vous y arriverez ». Et effectivement, j'ai été, selon l'avocate, la première femme célibataire à adopter un bébé du Québec. Et c'est grâce à notre coup de cœur d'amour à moi et Marco qu'on est passé au travers de tous les obstacles que la société pouvait nous mettre. Non pas à cause de mes défis particuliers, mais bien à cause du simple fait que j'étais une femme célibataire. Et le matin où j'ai reçu le jugement d'adoption, le juge qui était là à l'époque me demande tout bonnement, avant de terminer la cause, Madame Doucet, vous êtes jolie, vous avez un travail professionnel, vous êtes installée dans la vie, pourquoi vous encombrez d'un enfant à défi particulier? Et je lui ai répondu, vous savez, Monsieur le juge, j'adopte un enfant, j'adopte pas ces défis particuliers parce qu'ils deviendront nos défis dans notre projet de vie à tous les deux. Mm-hmm. Mais ceci étant dit, si vous croyez que je peux avoir un homme à la vie, à la mort, avec tout ce qu'on a comme perception d'une famille à l'heure actuelle, bien, j'en prendrai deux pour déjeuner demain matin et je ferai mon choix. Fait qu'à partir de là, le juge a bien compris que c'était « je pars avec mon fils dans la vie, je vais mener au quotidien, mettre en place les éléments pour lui permettre de grandir. Mm-hmm. » Puis la chanson le rappelle. Il ne m'appartient pas.
Marc-Olivier, c'était un poupon, là.
Oui,
il avait, un poupon. Il avait combien de mois?
Je l'ai accueilli, il y avait un mois et demi. Donc, il était tout petit bébé naissant. Puis j'ai eu mes documents officiels d'adoption. Il avait 2 ans. Donc, c'est pour ça que ça faisait le plus jeune bébé qui a été adopté au Québec par une femme célibataire. Et moi, je regardais Marco, puis je disais, on a une bataille à vivre tous les deux. Mm. Mais tu sais que notre bataille aidera toutes les autres femmes célibataires par la suite à réaliser leur rêve de pouvoir adopter un enfant comme toi ou comme un autre enfant. Mais on adopte un enfant à la base.
Alors, vous commencez, évidemment, vous vous rapprochez de la cause, puisque Marc-Olivier a la trisomie 21. Et c'est là que ça se fait concrètement. Vous commencez à aller au regroupement de trisomie 21, c'est en 98 à peu près?
Oui.
Comment ça se passe? Est-ce que c'est vous qui les approchez? Est-ce que c'est le fait justement d'avoir Marc-Olivier dans votre vie qui fait en sorte que vous allez cogner à la porte pour dire « voilà, moi je vis ça au quotidien, j'ai envie de faire des choses ».
Moi, je vous dirais, c'est un peu toutes les circonstances, parce que dans mon travail professionnel, j'accompagnais les parents et leurs enfants vers des systèmes d'intégration en garderie à l'époque ou en milieu scolaire. Donc, j'avais déjà comme exploré cette dimension-là. Je l'appliquais personnellement dans ma vie pour mon enfant comme parent. Qu'est-ce qu'il faut que je comprenne, que je connaisse des systèmes pour favoriser l'intégration? Et en 1998, je faisais partie du regroupement comme membre. Et c'est le regroupement, le président, qui m'a contacté pour voir si je pourrais donner des heures au niveau de tous les parents qui seraient membres du regroupement comme conseillère à l'inclusion scolaire et sociale. Ce que j'ai accepté d'emblée, parce que pour moi, ça allait de soi. Si j'ai développé une expertise, si j'ai des connaissances, pourquoi ne pas les mettre à contribution de l'ensemble des parents du Québec?
On fait une pause et on revient tout de suite après.
Qui font la différence. Voici Sophie Stanquet.
Lorraine Doucet, spécialiste en intégration scolaire et sociale, est avec nous. Elle s'occupe de la trisomie 21 et de l'AQIS. Alors, en parlons-en de l'intégration scolaire, parce qu'à travers, vous l'appelez votre paquet d'amour.
Oui.
votre petit paquet d'amour, Marc-Olivier, qui maintenant est un grand paquet d'amour parce qu'il a il a 27 ans, je pense, c'est ça?
27 ans, 27 tout ans. À fait.
Alors, à travers lui, vous partez encore avec votre bâton pour aller vous battre parce que les démarches à l'école, c'est difficile. Il faut défoncer les portes et vous trouvez que les portes sont pas mal fermées pour les enfants qui présentent une déficience intellectuelle. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez?
Les premières difficultés rencontrées lorsque on se présente dans ce service, qui est le seul service où on a l'obligation d'être assis, il n'y a pas d'autres obligations au Québec, c'est celui d'arriver à ce que les gens qui regardent notre enfant puissent le regarder comme étant une personne et non pas comme un handicap. Mm. Okay? À la base, à partir du moment où ils apprennent à connaître la personne, ses capacités, qui il est, ce qu'il aime manger, à quoi il aime jouer, et etc., il devient un individu réel. Puis en ce qui concerne ses capacités, bien là, on mettra nos têtes ensemble pour trouver des moyens de développer ses compétences. Et ça, pour moi, c'est la barrière, l'obstacle le plus difficile à franchir, parce qu'il est sûr que lorsqu'on se présente avec trisomie 21 ou un autre handicap apparent, la première chose qui saute aux yeux des gens de l'extérieur, c'est le handicap. Et pour passer par-dessus ça, c'est là qu'ils ont un réflexe presque automatique pour plusieurs. Il est handicapé, donc on va l'asseoir avec ces personnes-là qui n'est pas nécessairement le milieu naturel de la communauté de laquelle il vient.
Et ça vous fâche?
Tout à fait.
Parce que vous dites, et vous l'avez déjà dit à ce micro lors des questions de Sophie, vous dites que ces enfants-là sont beaucoup mieux quand ils sont intégrés, quand ils sont avec les autres et que les ressources devraient être plutôt là que dans des écoles spécialisées.
Moi, je pense que oui. Puis je le crois sincèrement. Puis ceci ne veut pas dire que des parents qui choisiraient l'école spécialisée ne font pas le bon choix. Pour moi, il y a une libre décision chez chacun. Mais à partir du moment où, pendant 15 à 17 ans, de ta communauté avec laquelle tu grandis, tu en es déraciné, tu en es sorti, et que quand tu quittes l'école à 21 ans, on te remet dans cette communauté-là, je veux dire, on a perdu un temps fou où on n'a pas grandi avec les autres, on n'a pas appris à connaître les autres, eux n'ont pas appris à nous connaître, et maintenant, on vous remet ensemble et continuez votre chemin comme personne à défi particulier.
Alors, on stigmatise, on ghettoise à ce moment-là, et
tout
on met de côté et on entretient les préjugés.
Totalement. Totalement, parce que j'ai toujours dit que l'intégration, les buts de l'intégration sont nécessaires pour la personne, mais nécessaires pour les autres. Comment je peux enseigner à des enfants de vivre ensemble la différence quand je sors les enfants différents de leur contexte?
Oui.
Ça ne s'enseigne pas dans les livres, ça se vit au quotidien et c'est par l'expérience que les enfants apprendront. Donc, j'ai toujours dit, ceux et celles qui ont vécu dans l'environnement de Marco au niveau de grandir ensemble sont ceux et celles qui seront les futurs employeurs, les futurs voisins, les futurs collègues de travail, les futures personnes qui croisera dans sa communauté. C'est comme ça qu'on bâtit une société. Je ne peux pas exclure et après ça m'attendre de la personne qu'elle s'inclut elle-même dans la communauté, sinon je vais devoir investir sur les services.
Alors, on en est rendu où aujourd'hui l'intégration scolaire? Dans vos batailles, là, si je reprends les batailles, parce qu'il faut dire que vous aviez 30 ans quand vous avez adopté votre fils, ensuite 25 ans où vous avez continué en réadaptation de travailler et de vous occuper de l'organisme de la trisomie 21. Là, il y a un petit bout, là. Il y a le temps qui est passé. On en est rendu où au niveau de l'intégration scolaire?
Je vous dirais qu'au niveau de l'intégration scolaire, puis je vais le dire sincèrement et tristement, à chaque fois qu'on change de gouvernement, on fait un recul. Ça, on n'a pas le choix. Et quel que soit le parti politique au pouvoir, il y a toujours un recul. Ce que je trouve déplorable, c'est qu'on essaie de trouver des solutions pour leur permettre des possibilités d'intégration, mais que cette chance-là, on ne la donne pas à tous. Et par les chiffres eux-mêmes qui viennent du ministère de l'Éducation, qui sont sortis en 2010, on attend les chiffres présentement, les 6 clientèles qui avaient un recul au niveau de l'intégration étaient les 6 clientèles qui avaient un handicap apparent. Donc, à partir du moment où je vois que cette personne-là a une trisomie 21, que je vérifie ses capacités puis ses besoins et que je regarde ce que je peux faire, le système a un réflexe presque systématique d'éliminer des milieux réguliers pour les envoyer vers des milieux dits spécialisés, mais dans lesquels on ne retrouve que des personnes similaires à eux. Comment peuvent-ils apprendre à vivre dans la communauté si je les sors de la communauté? C'est pour ça que en septembre dernier, en 2014, je m'excuse, la Commission des droits de la personne va dans une enquête systémique de la situation des élèves qui ont des incapacités, une déficience intellectuelle ou d'autres handicaps apparents et voir si les commissions scolaires ont un réflexe automatique de les exclure de leur milieu régulier versus l'inclusion.
Et comment on vérifie ça? Parce que là, on va le dire, le mot, là, puis je l'ai dit tout à l'heure, ça veut dire préjugé, là.
Tout
je
à fait.
Dire, c'est complètement préjugé, parce que si on cible et on met à part des gens, on stigmatise, ça veut dire qu'il y a un préjugé. On ne les écoute pas, on ne les entend pas.
Exactement. Puis ce préjugé-là est le premier obstacle à l'intégration. Même l'ONU le dit. Le premier obstacle à l'intégration et à l'inclusion, ce sont les préjugés des gens qu'il faudra, à un moment donné, déconstruire pour reconstruire quelque chose qui serait bénéfique pour chacune des personnes dans lesquelles on vit. Et moi, je dis toujours, c'est vrai qu'il est facile, lorsque j'ai une situation apparente, de dire, de décider déjà, avant même d'investir, « Ah! » Elle est comme ça, donc elle ne sera pas capable, elle ne sera pas capable, elle ne sera pas capable.
Mais est-ce que ce n'est pas condamné?
Bien, on condamne.
On condamne automatiquement. Là.
Et on impose immédiatement des limites pour eux sur nos suppositions, alors que chaque individu est différent. Donc, à partir du moment où je construis mon savoir en disant ils ont une déficience intellectuelle moyenne, exemple, il ne serait pas capable d'apprendre à lire, pas capable d'apprendre à écrire, je lui mets déjà des barrières que malgré ses efforts, il n'arrivera jamais à atteindre ce que vous voulez parce que vous allez me prouver que je ne suis pas capable.
Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité aussi du médical que certains médecins, et j'en ai entendu parler au niveau de la déficience intellectuelle, qui disaient « mais non, mais il ne sera jamais ou elle ne sera jamais capable », qui condamne et qui met un diagnostic et dit « bon, non, non, c'est impossible », et donc qui ne sont pas des alliés de l'éducation, ne sont pas des alliés d'un futur meilleur pour ces personnes-là?
Moi, j'ai hâte au jour où le système de l'éducation ne sera pas un système médicalisé, mais bien un système où on va apprendre socialement à vivre ensemble et où on va développer des expertises, des expériences pour développer des compétences comme citoyen. Tant et aussi longtemps que le système de l'éducation repose sur le système médical pour être capable de mettre en place ses services, on ne s'en sortira pas. Je m'excuse, le système médical a sa voix, sa façon de faire pour traiter les gens dans une adresse civique qui leur appartient. Quand je suis à l'école, je ne suis pas à l'hôpital. Je suis à recevoir des enseignements, je suis à recevoir des milieux d'expérience. Moi, je dis toujours, c'est un laboratoire social, l'école, où je développe mon autonomie, je fais des apprentissages pour que je pouvoir participer socialement à la communauté, à la vie de tous de notre société. Bien, le jour où j'aurai besoin du médical, j'irai m'asseoir dans un hôpital.
Alors justement, ils ont peut-être un peu de besoin de tendresse, ces médecins-là. Pour la prochaine chanson, Ginette Renaud, permettez-moi de dire ça, parce que ça finissait bien vos propos. Pourquoi?
La tendresse de Ginette Renaud, c'est la chanson qui me fait vibrer à l'intérieur parce que j'ai tellement de tendresse pour toute personne qui rencontre des obstacles avec ou sans handicap. J'ai tellement de tendresse que je veux, par cette chanson-là, réduire toute injustice qui s'adresse à toute personne dans notre communauté, dans notre société.
On l'écoute.
On s'est quitté sans être quitte, je n'ai pas eu le temps d'y penser. Un peu trop tôt, un peu trop vite, le temps passé nous est passé. Toi qui connais de moi les mois, de ces instants où tout bascule. Retiens-moi encore dans tes bras, sans passion et sans ridicule. Fais-moi la tendresse, l'amour sans chagrin, des mots sans promesses. fais-moi la tendresse, toi qui te souviens de toutes mes faiblesses. Fais-moi la tendresse, la main dans la main, oublie les caresses. Fais-moi la tendresse, aujourd'hui, demain, à la même adresse. Je t'ai voulu, tu m'as voulu, mais le destin n'en voulait pas. Comme ma chanson mal entendue, malheur à celui qui s'en va. J'ai fait ma vie de mon côté, j'ai réussi sans réussir. On ne sait plus par où commencer quand on a mille choses à se dire. Fais-moi la tendresse, l'amour sans chagrin, des mots sans promesses. Fais-moi la tendresse, toi qui te souviens de toutes mes faiblesses. Fais-moi la tendresse, la main dans la main, oublie les caresses. Fais-moi la tendresse, aujourd'hui, demain, à la même adresse. Fais-moi la tendresse, si tu m'aimes encore, un peu de désir. Fais-moi la tendresse, maintenant que nos corps n'ont plus de plaisir. Fais-moi la tendresse, toi qui te souviens de toutes mes faiblesses. Fais-moi la tendresse, la main dans la main, oublie les caresses. Fais-moi la tendresse, aujourd'hui, demain, à la même adresse. Innamorata, tanto.
Lorraine Doucet est en nos studios en direct. On poursuit cette belle conversation intégration scolaire sur votre mission. De temps en temps, vous sortez également au niveau des médias parce que on en a parlé des préjugés sur la trisomie 21, entre autres. Et là, vous faites des plaintes parce que vous n'aimez pas le traitement accordé aux médias. Qu'est-ce qui vous choque?
Le traitement accordé.
C'est-à-dire que la façon dont on parle de la trisomie 21.
Oui, c'est que pour moi, quand est arrivée la proposition du gouvernement de proposer le test prénatal pour toutes les femmes au Québec, c'est là que je suis sortie un petit peu dans les médias, je ne sais pas si c'est à ça que vous référez, où je trouvais que la société qui ne se permettait pas d'accueillir les enfants qui ont une trisomie 21 dans leur décor perdait quelque chose parce que ces enfants-là ont quelque chose à nous apporter, à nous partager et à faire évoluer notre société. Puis je reviendrai sur ma situation avec mon fiston. La venue de Marco m'a permis de me réaliser, mais a permis aussi de changer les règles de droit et de reconnaître qu'une femme seule peut être adéquate pour élever un enfant ici au Québec. Donc, chacun, on a une mission à réaliser et pourquoi ne pas leur permettre, eux aussi, d'aller vers la mission qu'ils ont à réaliser, c'est-à-dire leur permettre d'être ici sur cette terre avec nous.
Alors moi, j'avais aussi les plaintes auprès du conseil de presse ou de l'Ombudsman de Radio-Canada. Lorsque vous trouvez qu'il y a un reportage qui n'est pas bien.
Exactement. Et à ce moment-là, la plainte, c'était toujours par rapport au test prénatal, où je trouvais que la journaliste avait donné tout l'espace, puis si je me souviens bien, c'était quelque chose comme 4 minutes et quelques secondes, pour être pour l'avortement, alors qu'elle avait laissé un 30 secondes contre l'avortement. Donc, pour moi, il y a une injustice qui est là.
Pas les deux côtés.
Il faut toujours donner les deux côtés à la médaille pour que les gens puissent prendre la meilleure décision.
Tout à fait.
Pour eux, mais d'amener la société vers ce qu'on veut avoir comme résultat, ça me dérange toujours et je serai toujours prête à me lever debout pour dénoncer la situation.
Alors, vous accompagnez des familles vers l'intégration scolaire, vous donnez des conférences et des formations, mais il y a aussi un voyage, j'ai vu, vous partez en France, au Cambodge. Comment ça se fait? Vous allez loin, là?
C'est-à-dire, je ne suis pas partie au Cambodge. En
vous
France,
y allez,
oui.
J'ai vu les Cambodges dans vos notes.
Cambodge, c'est que j'aide des familles hors Québec. Donc, si des familles qui donnent naissance à un enfant qui a une trisomie en Allemagne, j'ai aidé une famille au Cambodge, c'était des enfants avec surdité qui n'étaient pas scolarisés, non scolarisables pour eux, et qui, après notre intervention d'équipe, parce que je faisais partie d'une équipe, les professeurs ont été formés à pouvoir accueillir ces enfants-là et leur permettre d'être scolarisés, de devenir des citoyens à part entière dans leur pays.
Votre expertise est donc mondiale?
Oui. En tout cas, reconnu quand même au niveau international. En France, on est allé, j'ai organisé une délégation où on est allé rencontrer des milieux associatifs, des milieux de soins qui accueillaient des enfants qui avaient une déficience intellectuelle pour leur dire « Non, le défi peut être dans la communauté, à nous comme professionnels qui avons été formés pour cela ». De mettre en place ce que ça leur prend pour développer leurs compétences et être des citoyens accomplis dans la communauté.
Alors, vous donnez aussi au suivant à chargé de cours.
Oui.
Et vous en avez parlé, vous êtes venu à ce micro en parler. Vous avez dit tout à l'heure, hors micro, cette musique-là, cette chanson-là, je la donne à mes élèves et ils sont complètement transformés. Qu'est-ce que vous leur apprenez? Qu'est-ce que vous leur dites à vos élèves? C'est quoi l'importance, là?
Tout à fait. Je vais juste faire un petit fil du temps pour répondre à votre question. C'est que j'ai travaillé auprès des familles pour pouvoir les aider à pouvoir réaliser les projets de vie pour leur enfant. Je me suis impliquée au niveau de tout ce qui est scolaire formation pour être capable d'en arriver à ce qu'ils aient des milieux accueillants. Et là, je me dis, après avoir investi tout cela pendant 32 ans, je me dis, mais il me manque quelque chose. Pourquoi ça ne débloque pas? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Et là, je me suis dit, il faut que j'aille rejoindre les gens sur les bancs d'école avant qu'ils deviennent les intervenants auprès de ces personnes pour être capable de les toucher, leur donner une nouvelle vision de ces individus-là et les amener à contribuer au développement de ces personnes-là. Donc, quand je leur présente la chanson de Linda Lemay, je peux juste vous dire que j'ai rejoint directement dans le plexus. Arrêtons d'utiliser le 6 pouces que nous avons au-dessus des épaules et connectons-le avec le cœur pour être capable de comprendre que la personne qui est dans cette situation-là ne l'a pas choisie, elle s'attend à ce qu'on puisse l'accompagner dans le développement de ses compétences et à nous qui sommes formés et chèrement formés, là, qui coûte quand même d'une façon, c'est dispendieux au niveau de la formation, qu'est-ce que je peux faire pour contribuer à leur projet de vie et non pas de soulever immédiatement mes préjugés et de dire « Ah, non, il va y avoir plein d'obstacles. » Non, on prendra... Mon dicton est « Un éléphant se mange une bouchée à la fois ». Je ne suis pas là pour guérir les personnes, mais bien pour développer des compétences, quelle que soit la personne. Donc, une personne qui a une déficience intellectuelle ou une trisomie 21 ou tout autre handicap, qu'est-ce qu'elle a de besoin pour grandir, à moi de le trouver et non pas de les rendre responsables de leurs conditions.
Lorraine Doucet, est-ce qu'on accueille mieux la différence en 2015?
Je crois que oui. Je crois que la société l'accueille mieux. Maintenant, est-ce que c'est ça qui ressort comme regard au niveau de ce qu'on entend dire? C'est qu'on entend parler que des situations qui ne vont pas bien ou qui sont dramatiques ou tragiques. Et jamais on entend parler de belles situations de réussite. Donc, pour moi, là, c'est si on investissait nos sous et notre développement sur pourquoi on réussit, qu'est-ce qu'on fait pour réussir et comment on y arrive, on arrêterait de parler d'élèves en difficulté, on arrêterait de parler de personnes en situation de handicap, on arrêterait d'exclure tout le monde qui ne me ressemble pas qu'on se ressemble.
On arrêterait de voir l'handicap avant la personne.
Tout à fait.
Alors, on fait une petite pause et on va faire le jeu questionnaire tout de suite après pour la fin de l'émission. Doucet, quelles sont les personnes qui vous ont inspirée?
Telle que je l'ai dit dans l'entrevue, ma meilleure amie Élise, mais il y a aussi mes parents qui m'ont beaucoup inspirée, qui ont toujours eu une ouverture de cœur, une grande générosité d'accueil et d'entraide. Donc, je pense que ces belles qualités-là qu'ils avaient, ils me les ont transférées et pour lesquelles j'accueille toute personne qui a besoin de mon soutien.
Vos mentors?
Mes mentors, j'en ai eu plusieurs, je vous dirais, qui sont des mentors à la base de la Commission des droits de la personne, qui sont des individus qui croient à la justice pour tous et pour lesquels ils appliquent une charte des droits et libertés qui est tatouée sur mon cœur, donc que je vais essayer de transmettre à tous ceux et celles qui me croiseront.
Les livres que vous nous recommandez?
Il y a différents livres qui sont super intéressants et surtout les livres qui nous amènent à une réflexion autre. Entre autres, un beau livre qui vient de sortir, qui vient de la France, « Ce n'est pas celui que j'attendais », qui donne justement la position du parent. C'est un parent qui l'a écrit, mais qui permet justement de mettre des mots pour chacun des individus qui entrent en contact avec une personne et sa situation particulière.
Les artistes que vous aimez?
Effectivement, les trois artistes que vous avez, c'est-à-dire les deux artistes que vous avez passés, Linda Lemay, Jerry Boulay, c'est-à-dire pas Jerry Boulay, mais...
Ginette Renaud.
Ginette Renaud sont de grandes artistes qui m'inspirent beaucoup, encore là, parce qu'elles mettent des mots simples sur du vécu.
Et les villes que vous aimez?
Effectivement, la France a été une ville que j'ai trouvée extraordinaire, une ville que je redoutais, car je savais qu'à l'époque, ces personnes-là qui avaient une déficience intellectuelle ou une particularité étaient placées dans des instituts médico-légaux. Donc, moi, j'étais là avec mon fils, qui a une trisomie 21 qui est très, très apparente. Et là, je me dis, mais mon Dieu, je vais me faire juger. Je n'ai jamais rencontré de peuple aussi accueillant envers mon fils que les Français.
Ça termine bien l'émission, ça. Merci, merci Lorraine Doucet de vous être livrée à nous dans notre émission Ces gens qui font la différence. Merci également à mon équipe, mise en onde, réalisation de l'émission Jean-Sébastien La Liberté, recherche Christiane Campagna et aux médias sociaux Kevin Breton. C'est Sophie Stanquet qui vous parle. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.